Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé avec une version pour avril 2023. On est très heureux d'être avec vous en compagnie de Maïlig Frémont. Bonjour Maïlig.
Bonjour.
Qu'est-ce que j'adore ce prénom. C'est breton.
C'est breton.
Voilà. Maïlig Frémont, vous êtes directeur métier amiante pour le groupe Axéo.
C'est ça.
Merci d'être avec nous. Alors, vous l'avez compris, la réponse, elle est presque dans le titre de la direction métier, puisqu'on va parler d'amiante aujourd'hui. L'amiante est un vrai sujet qui touche toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire l'hospitality, le résidentiel, la logistique et le tertiaire. C'est le sujet du jour que nous allons développé dans ce numéro du bâtiment optimisé, et on a de la chance puisqu'on a l'expert métier au niveau national qui est avec nous, et on va pas s'en priver puisqu'on va lui poser toutes les questions, qui est une question qui tarabuste souvent d'ailleurs les asset managers comme les property managers. C'est bien ça le sujet du mois, on se retrouve tout de suite après ça.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
On parle du sujet du mois, j'aimerais que d'abord, Maïlig, si vous voulez bien qu'on contextualise. Ça se dit maintenant, c'est très à la mode. Qu'on contextualise, qu'on veut dire, parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'amiante, ça fait un peu flipper là, comme ça, tout de suite. Là, on dit, bon, c'est un peu technique. L'amiante, c'est quoi, c'est quoi? Comment ça se produit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, le B.A.B.A. pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui serait en charge d'un portefeuille dans lequel il y a un sujet à cet égard, et ce sujet peut-être même l'intrigue ou lui fait peur.
Alors effectivement, c'est un sujet qui paraît très complexe et très technique. Je vais essayer de résumer. Donc la fibre d'amiante, c'est un matériau qui a été utilisé, c'est un composant de matériau du bâtiment qui a été utilisé dans les années 60-70 en très grande quantité pour s'approprier.
Extrêmement utile. Hein,
extrêmement utile, oui. On n'a pas inventé grand chose de mieux aujourd'hui en termes de capacité d'isolation phonique. C'est un produit qui est hydrophobe, antifongique, enfin vraiment ça a toutes les propriétés possibles et c'était vraiment très économique à produire, à mettre en œuvre et à mettre dans les matériaux du bâtiment. Donc on en retrouve beaucoup dans les sols, dans les murs, dans des enduits, dans des peintures, dans des flocages. Et malheureusement, c'est un matériau qui est cancérigène et qui aujourd'hui est interdit depuis 1997. Et donc, on est contraint par la réglementation de faire des diagnostics pour tous les bâtiments dont les permis de construire sont d'avant 1997, d'avant juillet 1997, pour détecter s'il y a des matériaux amiantés, en quelle quantité et dans quel état de dégradation ils peuvent être. Donc, ça passe par certains documents de réglementaire, mais pour tous les bâtiments, les parties communes des immeubles d'habitation, ou l'ensemble des surfaces des bâtiments tertiaires.
Dès lors que c'est bâti avant 97,
c'est ça.
Tout est concerné, quoi.
Oui.
Clairement. Mais c'est un chantier colossal.
Ben oui, oui, parce que aujourd'hui, avec tous les projets de rénovation...
95% de ce qui nous entoure a été bâti avant 97.
Ben c'est surtout 95% de ce qu'on rénove aujourd'hui pour les performances énergétiques qui sont concernées par les travaux et par cette problématique amiante.
C'est drôle parce que vous n'avez pas l'impression qu'on parle souvent de l'axe DPE énergie et pas suffisamment de l'amiante, alors que finalement... Ça fait partie du dispositif.
Bah, c'est une contrainte du dispositif. Alors effectivement, le DPE a ce côté écologique, économique, amélioration de l'habitat, mais il faut voir la problématique amiante comme une obligation de dépollution, de salubrité du bâtiment pour les gens qui y habitent ou les gens qui vont éventuellement travailler à l'intérieur pour faire des travaux de rénovation et les protéger contre ces fibres dangereuses.
Alors justement les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on ensemble avec Maïlig, on va lui poser les questions les plus néophytes possibles, les plus béaba possibles, comme si j'avais 5 ans, voilà. Je
ça
vous pose
aller.
Les questions pour qu'on puisse comprendre, parce que ça vous concerne, ça nous concerne, ça concerne finalement l'ensemble de l'habitat. C'est le décryptage, tout de suite après ça.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
C'est bien de décrypter finalement en tant qu'expert. Première question... quelle est la base réglementaire pour justement aller vers un désamiantage? On peut le dire comme ça?
Alors, avant de faire un désamiantage, on va faire un dossier technique amiante, ce qu'on appelle un DTA. C'est vraiment le premier document de référence sur la présence d'amiante dans un immeuble bâti. Donc, toujours pour ces bâtiments d'avant 97, où on va aller faire un inventaire des matériaux, on va dire directement accessibles, hein, c'est des matériaux basiques. Alors on parle techniquement d'une liste A, d'une liste B, c'est une liste réglementaire, mais c'est tous les matériaux qui sont directement accessibles et qui peuvent émettre des fibres dans l'environnement.
Tout ça, c'est
en cas de
dégradation. Ça, c'est normé. Hein, vous avez
oui, c'est tout est normé, il y a une d'accord. liste très précise.
Il y a un process.
Donc ça a commencé historiquement par les flocages, les calorifugages et les faux plafonds, qui sont les matériaux les plus basiques et ceux qui étaient le plus concentrés en fibres d'amiante et donc les plus toxiques. Donc on va inventorier ces différents matériaux, vérifier leur état de dégradation. En cas de dégradation importante, il y a des actions correctives à mener. Et on va surtout s'assurer que ces matériaux-là ne polluent pas l'environnement, ne polluent pas les gens qui habitent ou qui circulent dans les parties communes ou qui travaillent dans les locaux tertiaires.
Flocage ?
Oui. C'est ça, c'est... Alors le flocage, c'est un isolant projeté qui contient tout ou partie de fibres d'amiante. Il y a certains flocages historiques qui étaient très concentrés en fibres d'amiante, limite 100% fibres, et qui, quand ils sont dégradés, génèrent une très très forte pollution atmosphérique des locaux.
Le calorifugage.
Le calorifugage, c'est l'isolant qu'il y a sur les tuyaux pour maintenir l'eau chaude, l'eau
froide. Qui entoure le tuyau.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi, c'est un isolant ? Mais alors cet isolant, il peut être amianté ou pas ?
Alors oui, il peut être amianté, et puis il peut être amianté sur ses différentes couches. Il peut être amianté dans l'enduit bitumineux qui est sur le tuyau, il peut être amianté dans l'isolant thermique qui est dessus, hein, parce qu'on en a remplacé par de la laine de roche aujourd'hui, ou des isolants plastiques aujourd'hui. Et puis il peut être aussi amianté dans son enveloppe plâtreuse qu'il y a autour.
Alors, ça c'est très clair. Donc là, c'est un sujet où vous avez dit tout à l'heure que vous repérez les matériaux de l'extérieur. Est-ce que ça arrive que vous deviez, par exemple, je sais pas moi, casser un mur, percer un tuyau, enfin je sais pas, mais je caricature, mais comment
alors,
ça...
C'est pas caricaturé, c'est ce qu'on va faire quand on va être amené à faire des repérages amiantes dans le cadre de travaux. D'accord. Donc le dossier technique amiante, c'est pour ce qu'on appelle l'usage normal du bâtiment. C'est vraiment pour vivre dans le bâtiment et faire la petite maintenance, pour informer des matériaux présents.
Mais si y a de la... pardonnez-moi, mais quand vous dites le DTA, il y a de l'amiante. S'il y a de l'amiante, vous êtes obligé de faire les travaux pour les enlever.
Pas forcément, ça dépendra de l'état de dégradation. L'amiante en place non dégradée ne présente pas de risque particulier.
D'accord.
Il n'y a pas de souci. Une toiture amiantée ne présente pas de souci particulier.
Par contre, dans le cadre de travaux... Donc je me trompe quand je vous dis qu'il faut désamianter. Je me trompe. C'est oui, mais si ce n'est pas dégradé, ça ne nécessite pas forcément des travaux lourds.
Non, ça peut rester en place.
Très bien.
Tant que ça ne présente pas de risque pour les personnes qui travaillent à l'intérieur.
Et ça, vous êtes seul à le pouvoir le déterminer.
C'est les techniciens du bâtiment
qui
déterminent.
Oui,
c'est les personnes certifiées qui font ces repérages-là et qui vont évaluer l'état de dégradation.
C'est très clair.
Par contre, dans le cadre de travaux, là, on va être obligé de faire des investigations plus approfondies, de faire ce qu'on appelle des sondages destructifs. Donc, effectivement, aller percer des cloisons, percer des sols pour voir la composition, la structure des bâtiments, pour voir s'il n'y a pas de l'amiante cachée derrière des cloisons, sous des faux plafonds.
Vous n'avez pas le choix, là. Vous êtes obligé de faire ça.
On est obligé de détériorer.
C'est une règle...
Oui, c'est la règle de base des diagnostics avant travaux.
Dès là que... Ah oui, d'accord, ok. Ça va faire flipper un peu les property managers, parfois, en se disant, il va falloir casser un peu pour voir.
Oui, surtout quand ils ne savent pas où vont faire les travaux.
Oui, surtout quand on ne sait pas. Et surtout, est-ce que le bâtiment, quand ça arrive... Alors, je dis une question bébête, hein, peut-être. Est-ce qu'il est occupé, le bâtiment, quand vous faites ça? Ou est-ce qu'il est vide ? Parce que ça, c'est un sujet aussi.
Certains diagnostics peuvent se faire en locaux occupés. Par contre, quand on fait des sondages destructifs, idéalement, dans tous les cas, on fait sortir les locataires ou les usagers d'un bureau, par exemple. Mm-hmm. Mais par contre, on utilise des méthodes qui sont non émissives de fibres. Parce que dans l'hypothèse où on prélève un matériau qui contienne des fibres d'amiante, il ne faut pas que notre travail pollue l'environnement. Donc on utilise des méthodes et des techniques qui sont processées, qui sont contrôlées pour ne pas émettre de fibres dans l'environnement quand on travaille.
Toujours dans le décryptage, le DTA est une nécessité dès lors que je veux faire quelque chose ou est-ce que je dois déjà le faire ?
Je dois le faire. Même si je ne fais rien dans mon bâtiment,
donc,
je dois le définir.
Je ne le vends pas. Je ne le vends pas, je le garde en portefeuille. Mm. Si je suis contrôlé, je dois l'avoir.
Il doit être à jour. Vous devez l'avoir et il doit être à jour.
Mais il y a plein d'immeubles pas à jour.
Je vous le confirme.
C'est énorme. Non, mais je vous le dis. Hein, on a l'habitude. Hein, on s'appelle un peu Radio Imo aussi. Avec le peu de connaissances que je peux avoir quand même, il y a bien 7 bâtiments sur 10 qui ne l'ont pas. Hein.
Oui, ça doit être la bonne proportion. Oui. Alors, qui ne l'ont pas ou qui ont un document non à jour.
Oui, alors, comment ça se fait ?
Alors, qu'ils l'ont pas, c'est souvent qu'ils ne l'ont plus, parce que au gré des acquisitions, cessions, et puis les diagnostics, les DTA ont été faits dans les années 2005.
Bien sûr.
C'était du papier, c'était dans des classeurs, et puis les documents se sont perdus. Aujourd'hui, avec la sauvegarde numérique, on a une meilleure traçabilité des documents.
C'est clair.
Par contre, même des documents qui ont été faits historiquement, ils sont pas forcément à jour. Le DTA, il doit être postérieur à 2011, puisque la réglementation a évolué en 2011 sur le périmètre des investigations. Et surtout, s'il y a une présence d'amiante dans le DTA qui est existant, il faut qu'il y ait des passages périodiques. Il faut qu'on vienne évaluer périodiquement l'éventuelle dégradation des matériaux.
Donc le DTA, il est valable sur une durée moyenne de combien de temps, Maëlig ?
En gros, 3 ans s'il y a présence d'amiante dans le DTA. Tous les 3 ans, il faut repasser.
C'est hyper important. Hein.
Oui.
Tous les 3 ans, vous qui nous écoutez, la loi ne dit pas tous les 3 ans vous devez faire un DTA, on est d'accord ?
Non, on fait juste un contrôle visuel.
Par contre, ce que vous dites, c'est pour justement mesurer la dégradation potentielle de ce risque-là, il vaut mieux le faire tous les 3 ans.
C'est ça.
Est-ce que les clients le font ?
Pas toujours.
Que vous avez en portefeuille.
En fait, il y a une partie des matériaux qui a une contrainte obligatoire inférieure à 3 ans en termes de périodicité. D'autres matériaux amiantes qui sont considérés comme moins dangereux ont une périodicité qui peut être un petit peu plus longue. Donc souvent, la maîtrise d'ouvrage préfère jouer un petit peu la montre et étaler le temps. Bon, ça ne les empêchera pas de devoir faire d'autres opérages dans le cadre de travaux, dans tous les cas.
La question, les travaux font peur, beaucoup font peur, parce que c'est des coûts. Hein, ce sont des coûts, et ce sont des coûts non maîtrisés, pour certains. C'est la réponse qu'on nous fait pour certains maîtres. Quand on dit coût maîtrisé, c'est, vous savez, quand vous faites un sondage destructif, vous savez pas réellement à quoi vous vous attendez. Mm-hmm. Ça peut être parfois un peu la bérésina en termes de coûts de travaux. Et souvent, la question nous est posée sur la maîtrise d'œuvre, sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Alors vous avez la particularité chez Axéo. J'aimerais que vous nous décortiquiez la chaîne de valeur, si vous voulez bien, dans l'accompagnement, où on a l'impression que parfois certains property managers sont un peu, j'irais pas désespéré, mais perdu ou même confus. Comment ça se passe avec vous?
Bah, ça se passe bien, déjà, c'est la première chose.
Bonjour, ça c'est clair.
Et l'intérêt de faire piloter ces projets quand il y a un risque amiante détecté, c'est qu'on va pouvoir maîtriser les coûts et les délais, en fait. Et donc, on va prendre le projet dès la réalisation du repérage amiante avant travaux.
Ah, même les coûts, ah oui.
Et on va optimiser les méthodes, on va étudier différents scénarios de travaux qui vont jouer sur la durée, sur l'occupation des locaux, sur les méthodes mises en œuvre. Et en fonction de tous ces paramètres, on va pouvoir proposer à notre maîtrise d'ouvrage différentes solutions techniques et différents budgets en fonction de ce qu'ils ont les moyens de faire. Alors, vous parliez de désamiantage. Le désamiantage, il n'est pas forcément systématique. On peut mettre en sécurité des matériaux si on n'a pas une obligation.
Ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, effectivement, voilà. On n'est pas obligé de désamianter pour désamianter.
C'est ça.
On désamiante s'il y a un risque de dégradation ou de pollution. Parce que je voudrais qu'on revienne sur le côté, toujours dans le décryptage de l'environnement. Ce que vous faites, finalement, c'est presque une mission de salubrité publique. Puisque vous dépolluez le bâtiment,
c'est
quand
ça,
même.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement.
Et cet acte-là, il faut vraiment le voir de ça.
Il faut voir ça comme la dépollution du bâtiment,
exact.
Et puis la sécurisation des locaux. Alors après, sur la durée, c'est une valorisation du bâti. On parlait d'un patrimoine, effectivement, ça sera beaucoup plus facile de revendre ou d'augmenter la valeur d'un bien qui a été totalement désamianté, puisque à l'avenir, il n'y aura plus jamais ces problématiques-là, plutôt que des bâtiments où on aura... je vais dire vulgairement cacher la misère, c'est-à-dire fait du recouvrement sur des dalles de sol, parce que l'amiante est toujours présente et le propriétaire futur, s'il a envie de refaire les sols, il va redécouvrir l'amiante et devoir gérer ces problématiques-là plus tard.
Vous avez tout à l'heure évoqué justement sur ce qu'on appelle les classes d'actifs, c'est-à-dire les types d'habitats concernés. Tous sont concernés, on peut être très clair. Immobilier de commerce, logistique, habitat résidentiel et tertiaire. Par contre, c'est pas les mêmes règles. Pour le tertiaire, pour le résidentiel, vous m'avez dit, ça ne concerne que les parties communes.
Alors pour le DTA, le document de base.
Pour le DTA, qui est une obligation légale, rappeler que c'est une obligation légale. Pourquoi que les parties communes, il y a une logique.
Oui, c'est pour pouvoir gérer les petits travaux de maintenance, en fait, pour
d'accord.
l'usage quotidien du bâtiment, pour savoir où est l'amiante directement accessible. Donc on ne rentre pas dans les logements.
Qu'est-ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir de l'amiante dans les logements?
Ça peut. Donc il y a un autre document, un autre diagnostic qui existe qui s'appelle le DAPP pour les parties locatives, hein, les immeubles d'habitation et les appartements. Oui. Le document est techniquement un peu moins pertinent, c'est pour ça qu'il est moins développé, mais par contre les bailleurs sociaux doivent fournir les DAPP à l'ensemble de leurs locataires. Normalement.
Justement, les diagnostics, on en a beaucoup parlé, notamment sur le DPE, l'ancien, le nouveau DPE, où il y a eu beaucoup de sujets hein, sur le calcul et l'approche des matériaux. Toujours sur le DTA, quand on prend un plan pluriannuel de travaux, on va rester dans la copropriété, si vous voulez bien, dans un premier temps. Est-ce que, justement, DTA et les travaux d'amiante peuvent entrer dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux?
Ça va être des éléments qu'on va aller vérifier. Dans le cadre du 3APT, en fait, on va vérifier l'aspect réglementaire, documentaire du bâti. Et dans ces pièces documentaires à vérifier, il y a la conformité, la validité du DTA, puisque c'est un document de base. Donc, il peut y avoir un warning dès le premier dossier.
On ne peut pas ne pas avoir de DTA,
non.
Hein, on est d'accord. Là,
sauf si le bâtiment date d'après 97,
oui,
dans
oui,
ce
oui.
cas-là, on est exonéré.
Oui.
Mais sinon,
95% des bâtiments ont été construits avant, donc ça veut dire qu'il y a nécessairement le DTA dans le PPT, avec des prescriptions ou des préconisations ou pas.
Alors, oui, en tout cas, il faut s'assurer qu'il soit présent, à jour et complet. Et ensuite, dans le cadre du plan pluriannuel de travaux, lorsqu'il y aura des travaux, et selon les zones de travaux, il faudra faire des repérages spécifiques amiante dans ces zones-là pour aller voir s'il faut refaire un ascenseur, s'il faut refaire l'isolation thermique par l'extérieur. Il faut aller voir tous ces matériaux potentiellement amiantés.
Pour le secteur tertiaire, vous m'avez dit que ça concerne la totalité de la surface.
Oui.
D'accord. Ok. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de partie commune.
Parce qu'il n'y a pas de partie commune. Non, mais voilà, parce qu'il n'y a pas de partie commune.
C'est tout. En fait, c'est dans le cadre.
Un immeuble du bureau avec des troncs communs, mais finalement, non, c'est une occupation globale.
Alors, il y a des parties communes dans les immeubles tertiaires, mais le bailleur, le propriétaire, doit fournir le DTA aussi pour les entreprises qui logent à l'intérieur.
D'accord. Et alors, je vous propose maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux solutions, une petite virgule, et on se retrouve tout de suite après.
Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
Alors, justement, les solutions avec vous, Maïlig, avec des questions basiques. Voilà. Je suis property manager d'une foncière qui n'a que des immeubles en SCPI. Vous connaissez le principe des SCPI. Une quarantaine d'immeubles. Je ne connais absolument pas, et ça arrive à mon avis souvent, quel est l'état ou pas de l'amiante que j'ai dans mes bâtiments. Est-ce que c'est une question qui est posée lorsqu'on vous sollicite ?
Alors oui, c'est souvent la problématique de la gestion documentaire à la base, c'est que les propriétaires sont un petit peu perdus sur tous ces documents, n'ont pas forcément la trace de toute leur historique, donc ils vont nous mandater pour faire un audit de base, audit de situation, pour faire une photo de toutes les actions à mener pour se mettre en conformité réglementaire, déjà.
Et la question la question est posée, c'est donc on vous mandate pour faire un audit, et on nous pose une question un peu basique, mais à mon avis terriblement efficace, c'est combien ça coûte, un audit ?
Alors, toujours moins cher qu'avoir des problématiques de santé publique, mais ou les amendes éventuelles.
c'est clair.
Mais après, alors, dans le cadre de travaux, les prestations sont... quand on fait des suivis de travaux, de la maîtrise d'œuvre dans le cadre de travaux, nos prestations sont souvent amorties par les économies d'échelle, par la recherche de solutions optimisées en termes de temps. D'accord. Et surtout, on évite les aléas, on évite les travaux supplémentaires, les arrêts de chantier éventuels qu'il peut y avoir si on fait des choses pas dans les règles.
Donc il n'y a pas de prix forcément pour le DTA ? C'est en fonction.
Alors il y a un prix de marché pour le DTA. Après, il y a des DTA qui sont bien faits et des DTA qui sont moins faits. Il faut un peu de temps pour faire un DTA correct.
On peut donner un prix ou...
On va dire qu'un DTA sur des parties communes d'immeubles d'habitation, c'est entre 300 et 500 euros hors taxe.
C'est pas très cher. Hein.
Non, c'est pas très cher. Après...
C'est vraiment... Non mais attendez, pour un sujet aussi important, je trouve ça vraiment pas ça très cher. C'est-à-dire quoi, il y a un coût au mètre carré, ou c'est forfaitaire,
c'est comment ? C'est principalement... On compte en entrée en partie commune, en fait. Hein, c'est la dimension et l'étendue des parties communes qui fait le temps de travail, puisqu'il faut tout visiter.
Pour le tertiaire, c'est le même prix ou...
Bah après, c'est un prix au mètre carré pour le tertiaire. Il y a des tranches, mais il faut
tout
visiter.
Donc c'est un prix au mètre carré. Tous ces renseignements, on peut les avoir en allant sur le site d'Axéo ou vous contacter, bien sûr, directement. Deuxième question qui nous est posée. Vous aviez déjà, d'ailleurs, partiellement répondu dans la première partie de l'émission, c'est le suivi travaux et le budget travaux. Là c'est un vrai sujet parce que souvent ce que disent, et c'est la question qui est posée, c'est l'absence de partenaires fiables ou d'entreprises qui maîtrisent le sujet. Est-ce que c'est réellement un sujet ?
Alors, des entreprises qui maîtrisent le sujet, il y en a, puisque les entreprises qui peuvent travailler dans le domaine de l'amiante, elles sont certifiées.
Il y a un label.
Voilà, elles sont certifiées, elles ont passé un certain nombre de tests, d'examens, elles sont suivies, donc les entreprises sont référencées, identifiées. Par contre, le potentiel de marché est tellement important qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur ce marché dans le bâtiment, effectivement.
C'est clair.
Et il y a beaucoup de travaux, donc les prix sont très variables en fonction des secteurs géographiques, de la charge de travail des entreprises. Donc l'avantage de passer par un maître d'œuvre ou un AMO, c'est de pouvoir maîtriser ses coûts. On connaît les prix de marché, on connaît les prix locaux et on arrive à ajuster. Et puis on travaille avec des entreprises, on sollicite des entreprises qu'on a pu référencer, qu'on a pu auditer sur les chantiers et on s'assure que les prestataires sont de qualité.
D'accord. Donc ça veut dire que vous checkez la qualité des intervenants, vous suivez éventuellement les budgets, puisque vous avez déterminé le cadre travaux, dans le cadre effectivement de la maîtrise d'œuvre, pour l'accompagnement. Donc, si je vous dis que vous accompagnez de A jusqu'à Z, je ne me trompe pas.
Non, jusqu'à la réception du chantier, jusqu'à la livraison finale du chantier terminé et sécurisé.
Est-ce qu'on peut considérer finalement que vous m'enlevez finalement une contrainte ?
J'espère, oui.
Non, mais
j'espère,
non,
c'est le but.
Vous êtes d'accord, c'est ce que vous dites aux clients, c'est un casse-tête.
Oui.
C'est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête en plus qui les ennuie énormément, parce qu'ils ont beaucoup de boulot par ailleurs. Et ça, c'est un sujet dans lequel ils seraient très contents de le déléguer. D'ailleurs, c'est le cas avec la plupart de vos clients. Comment vous expliquez, justement, c'est une autre question qu'on nous pose, quelqu'un qui est un peu étonné de, justement, du peu de bâtiments qui ont réellement mis en place un DTA ou un DTA à jour. Voilà. Parce qu'en fait, la question qui nous est posée, c'est qu'ils ont l'impression que quand ils ont fait le DTA, ils ont satisfait à l'obligation, et puis ils n'y reviennent plus.
Alors il y a probablement, je pense que le manque de contrôle, enfin l'absence de contrôle sur la présence de DTA fait que ça n'incite pas à réaliser ce document. Et puis ensuite, il y a l'utilité technique. Un DTA, ça reste un repérage amiante léger ou sommaire. Et dans tous les cas, quand il va y avoir des travaux, il va falloir faire d'autres investigations complémentaires. Donc effectivement, une obligation réglementaire qui couvre pas 100% du risque, ça peut peut-être ne pas motiver les bailleurs et les propriétaires à faire ça.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, parce qu'effectivement il faut toucher au porte-monnaie dans ces cas-là, ça valorise l'actif, d'accord, et ce sont surtout des emmerdements en moins, parce qu'effectivement ce sont des contraintes. Parce que vous avez dit une chose tout à l'heure qui est très juste, hein, c'est de sondage destructif, parfois il faudrait peut-être même casser une partie de l'immeuble pour retrouver de l'amiante, et donc le fait que ce soit fait, c'est déjà une chose qui ne sera plus à faire, et donc du coup ça valorise l'actif, et ça le valorise d'autant plus qu'à la limite finalement le coût est nul, puisque l'investissement qui est fait permet à l'actif justement d'absorber le coût travaux.
En tout cas, ça ne le dévalorise pas. Par contre, oui, dans le cadre d'une cession, si le futur acquéreur identifie qu'il y a une présence amiante importante et que dans le cadre de ses projets de rénovation, il va devoir gérer un budget de travaux important, il peut négocier cette valeur-là dans le prix d'achat. Donc, on fait des études préliminaires avant acquisition chez Axéo, justement pour aider les investisseurs à choisir les biens et à leur définir une enveloppe de risque en cas de présence d'amiante pour qu'ils puissent négocier le bien.
Si on devait, là, avant de nous quitter, déterminer les principales étapes pour justement aller au bout de ce désamiantage, de la dépollution des bâtiments, premier, on mettrait faire un diagnostic.
Oui, le premier, amiante, il faut faire le DTA.
Le remettre à jour.
C'est ça. En tout cas, il faut s'assurer d'avoir son DTA à jour, en possession et en ordre.
Deuxième point, le cas échéant, en cas de dégradation.
Bah faire les actions correctives, effectivement, s'assurer que...
Et donc, passer par les travaux.
Alors, en tout cas, par les travaux de sécurisation. Ça ne veut pas forcément dire désamianter, mais ça veut juste dire arrêter le risque d'émission de fibres dans l'environnement.
Le troisième point, justement, qui est corrélatif au deuxième, c'est que si, au besoin, faire des travaux...
Oui, il faut faire un repérage.
De désamiantage. Là, c'est repérage avec sondage destructif pour repérer. Et là, vous prenez la main, éventuellement, sur des travaux. Quatrième point... C'est la conduite des travaux. Et enfin, le cinquième point, c'est justement la livraison de ces travaux avec une réception qui est de cet ordre-là. Est-ce qu'on est carré là-dessus ?
C'est ça. On a toute la chaîne.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a été très précis avec vous, mesdames et messieurs, parce que je peux vous dire que le sujet, on est d'accord, il n'est pas simple.
Mais si, c'est simple. Si c'est bien expliqué, c'est simple.
Bah, il est, ouais, oui, il est simple à condition d'avoir Maïlic Frémont sur le plateau. Voilà, moi je vous le dis.
Merci,
parce que j'ai tout compris. Et je peux vous dire que ça ne m'arrive pas souvent. Voilà, merci Maïlic Frémont. Je rappelle que vous êtes directeur métier pour Axéo, pour tout ce qui touche à l'amiante. Voilà, Axéo qu'on retrouve sur le site internet d'Axéo avec toutes les informations. Et si on veut en savoir plus, Maïlic Frémont, on peut vous contacter directement, je suppose.
Tout à fait.
Voilà, c'est le bon réflexe pour ce type de sujet. On va se retrouver. Merci Maïlig. On va vous souhaiter un excellent retour sur vos terres, là, parce que je crois que vous êtes marseillais, me semble-t-il. En tout cas, on va se retrouver au mois de mai pour les sujets, notamment du DPE d'énergie pour le résidentiel. On aura deux numéros que nous allons tourner courant mai. On sera ravis de vous y retrouver pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Merci Maïlig.
Merci.
Voilà, et bien évidemment, le podcast, comme d'habitude, il est à récupérer sur toutes les plateformes qui vont bien.
Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.